Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. Elle est ouverte, cette frontière entre la Tunisie et la Libye. La décision a été prise aujourd'hui. Finalement, il a été convenu que les deux pays allaient appliquer un protocole sanitaire identique pour prévenir les risques de propagation du Covid-19. On se souvient que ces dernières semaines, la frontière était fermée puisque les protocoles différaient d'un État à un autre. Finalement, après de nombreuses réunions, il a été convenu donc d'un protocole pour tout le monde, de telle façon à ce qu'il y ait une réouverture des hommes, des marchandises, et cela va mettre de la fluidité aussi. Cela va quelque peu adoucir la tension, parce qu'il faut dire les choses, hein. C'est vrai qu'il y avait un léger climat de tension entre Tripoli et Tunis, suite toujours à ces rumeurs de mercenaires qui seraient en Libye, qui auraient eu pour ambition de rentrer à Tunis, commettre des actes qui soient délictueux. Alors Tripoli a fait un geste, hein, c'était hier, d'ailleurs on en a parlé dans les colères du monde, il y a des personnels militaires qui étaient sur la base de Al-Watiya qui ont été transférés à destination de Tripoli, donc plus loin de la frontière tunisienne, donc aussi cela a été entendu, cela constitue un contexte général qui fait qu'aujourd'hui donc on va pouvoir retourner à la normale avec cette ouverture des frontières. Aussi c'est important pour toutes les industries, pour toutes les boutiques, pour toute l'activité économique tunisienne qui se trouve juste à côté de la frontière, parce que c'est aussi le monde des affaires, hein, c'est le monde du transport, des échanges économiques qui est concerné. Et même si parfois il y a eu des instants d'engorgement dans les hôpitaux tunisiens, tant l'afflux de Libyens était important, mais même s'il y a eu ces moments d'engorgement, il n'en reste pas moins qu'il est important pour la Tunisie aussi de bénéficier de ce commerce pour pouvoir tout simplement faire prospérer la région. Le théâtre libyen, avec ses opérations qui sont menées par les forces de Khalifa Haftar dans le sud du pays contre des mercenaires tchadiens, il a été dit par le FACT, notamment par ce mouvement rebelle qui avait tenté un coup d'État au Tchad en début d'année, il avait été dit que des avions militaires français étaient intervenus pour participer aux affrontements. La France, bien évidemment, a démenti totalement ces allégations, ces rumeurs. Il n'y a jamais eu de quelque manière que ce soit d'implication des forces françaises dans ce différend qui oppose Khalifa Haftar ainsi que ses couches résiduelles des facts. Il y a aussi cette problématique plus profonde de tous ces combattants, de tous ces mercenaires qui sont venus d'Afrique, et pas seulement du Tchad, mais aussi du Soudan du Sud, d'autres venant même aussi de régions d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique des Grands Lacs. Il y a tous ces combattants qui étaient venus gagner de l'argent en Libye, et avec la stabilisation du front, avec ce processus électoral en cours, ceux-ci n'ont pas toujours été payés. Alors ils restent dans le pays parce qu'ils attendent leur argent, mais aujourd'hui vous avez des forces armées qui disent non, maintenant vous avez fini votre travail, on n'a pas d'argent pour vous payer, vous rentrez à la maison. Donc aussi ceci explique ce climat de tension qui existe entre ces mercenaires venant d'Afrique subsaharienne et les autorités qui se partagent le pouvoir pour l'instant en Libye. C'est une expression d'un économiste qui s'appelle la stagflation. Alors la stagflation, c'est Mohamed Achir qui est docteur en économie. C'est le mot qui a été utilisé pour décrire l'économie algérienne avec cette augmentation galopante des prix de la consommation et un taux de chômage qui est toujours très 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 important. Et puis en sus, il y a bien évidemment le déficit de l'État qui est tout à fait important avec cette économie monobloquée sur les ressources fossiles. De plus en plus d'articles dans la presse algérienne faisant état de l'érosion du pouvoir d'achat des consommateurs algériens. Il y a même des articles qui vont jusqu'à dire que la valeur moyenne d'un salaire en Algérie a été divisée par deux puisque les prix ne cessent d'augmenter. Ceci concerne à la fois tout le phénomène du le pain pas cher, la baguette à 10 dinars, on en a beaucoup parlé dans les colères du monde, et elle n'y est toujours pas là, cette baguette à 10 dinars, et puis toujours des problèmes sur les viandes blanches, les viandes rouges, toujours le problème sur l'approvisionnement des légumes, alors quand ils sont là, parce qu'ils sont là, hein, y a pas de souci, mais quand même, ils sont là à des prix qui sont tout à fait conséquents, ce qui fait que aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas eu de recomposition, de refonte de la politique salariale en Algérie, il devient de plus en plus difficile de pouvoir boucler ses fins de mois, de pouvoir faire vivre dignement une famille, d'emmener les enfants à l'école et si possible à l'enseignement supérieur. Voilà ceci qui inquiète, hein, la presse algérienne qui s'en répand à raison parce que la situation aujourd'hui en Algérie, d'un point de vue purement économique, est éminemment complexe. Le Maroc, avec son ambassadeur, son représentant permanent à Genève, Omar Znibert, qui a interpellé le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies, donc qui est en charge des réfugiés. Il s'exprimait à l'occasion de la 82e réunion du comité permanent du programme du HCR. Et donc l'ambassadeur marocain a rappelé l'entière responsabilité du régime algérien dans la persistance du calvaire qui est enduré par les populations qui sont retenues dans les camps de Tindouf. Et puis au Maroc, on peut signaler que le directeur général de la Sûreté nationale a décidé de suspendre 4 responsables et ceci devrait être présenté devant un conseil disciplinaire le plus rapidement possible. La guerre du mazout, c'est comme ça que le Hezbollah célèbre sa victoire. Il dit avoir gagné la guerre du mazout. Au Liban, des camions sont rentrés hier en provenance de Syrie avec à leur bord du pétrole iranien. Il y a ces opérations de distribution qui sont en cours pour suppléer la difficulté qu'il y a au Liban pour essayer de trouver du pétrole, avec néanmoins cette mesure étonnante qui a été prise par le ministère libanais de l'énergie qui a décidé d'augmenter les prix de l'essence, notamment l'indice d'octane 95 et l'essence en 90. Et bien ces prix ont augmenté de 37%. Ce sont là des chiffres tout à fait conséquents que l'on peut s'expliquer parce qu'il y a aujourd'hui une levée des subventions qui s'appliquaient jusqu'alors sur l'essence de 95 et de 98. Maintenant, c'est vrai que plus 37%, c'est très très cher, ce qui fait qu'il va y avoir une sorte d'obligation, un effet, va-t-on dire, pervers, hein, puisque l'essence qui arrive de Syrie en provenance d'Iran est une essence qui en fait est illégale, puisque celle-ci n'est soustraite à aucune législation, à aucune réglementation. Elle est même en infraction avec le régime américain des sanctions. Donc voilà cette augmentation de l'essence, plus 37%, alors que le Hezbollah procède depuis hier à la distribution de pétrole en provenance de l'Iran.
Brutal Doxa, terreur terrorisante.
La lutte antiterroriste, c'est notre étape du jour après que le Trésor américain ait pris la décision de placer 5 facilitateurs, 5 financiers du groupe Al-Qaïda qui sont actuellement basés en Turquie sur leur liste noire des sanctions puisque ceux-ci ont procédé à l'approvisionnement de fonds à destination de groupes armés dont certains avaient fait préalablement allégeance au groupe Al-Qaïda. Il s'agit de Hayat Tahrir al-Sham qui est rompu par rapport à Al-Qaïda, mais quand même qu'il y a des facilitateurs, des financiers qui continuent de faire parvenir des fonds à l'organisation qui est aujourd'hui en perte de vitesse, hein, clairement sur la zone d'Idleb, à part les groupes armés qui sont restés fidèles à Al-Qaïda et qui se regroupent sous la bannière de Ouras al-Din, qui est un groupe qui a fait allégeance donc à Al-Zawahiri. Donc indépendamment de cette Ouras al-Din, c'est vrai que globalement, Al-Qaïda a énormément perdu en territorialisation sur la zone Syrie, à la faveur, en revanche, de l'Afghanistan, avec toujours cette présence qui a été prouvée selon l'ONU, selon ses services, dans plus de 10, au moins peut-être même 15 provinces, 15 districts afghans, il y aurait des éléments du groupe Al-Qaïda qui a toujours bénéficié d'une relation singulière avec les talibans, Al-Qaïda ayant dans le passé fait allégeance aux talibans, estimant que le modèle qui est le leur convenait à la pensée al-qaïdienne. Donc pour revenir à la Syrie, on assiste à la situation suivante, c'est-à-dire que Al-Qaïda aujourd'hui est véritablement en perte de vitesse. Il reste ces groupes qui lui demeurent fidèles. Et quand le Trésor américain porte un coup dur sur les financiers de ce groupe, c'est également une difficulté additionnelle pour Al-Qaïda en Syrie, parce que moins d'argent, moins de recrutement, moins d'achat d'armes, moins de mobilité sur le terrain, moins de moyens également pour cacher des combattants. Donc à terme, par l'argent finalement, par l'argent, par les menaces qui sont exercées, par les mesures de rétorsion qui sont appliquées sur les flux financiers, le Trésor américain, les États-Unis d'Amérique espèrent venir à bout de la présence d'Al-Qaïda en Syrie. En revanche, en Afghanistan, ça va être beaucoup plus compliqué, puisque l'imprégnation al-qaïdienne avec la réalité afghane est autrement plus aboutie.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.